Ceci est la rediffusion de l'émission Cappuccino.
Alors, on vous souhaite un beau réveil, plein de bonnes choses. Aujourd'hui, il va faire beau, donc il faut en profiter.
E va bene lo so, oh oh. Ma com'è bella la vita e la tua faccia alle 6 di mattina.
Ma tu non piangere. Non si.
Aligre FM presenta Cappuccino. Il presentatore del 9:30 è Michele Gotti con i suoi invitati.
Bene, dunque Michelino, devi forse cambiare il jingle perché ogni volta che tu si sente dire che fa bello fuori, vabbè, insomma, arriviamo verso l'inverno.
Sì, infatti, è un po' logico.
Come va, Michele?
Questa primavera e quest'estate era vero perché doveva essere il sole e c'era sempre pioggia.
voilà, cambia, dai.
Sì, allora, tutto va bene.
Tutto bene, sì, mi fa piacere.
Je suis content de vous retrouver tous ici parce que c'est vrai que on a ce rendez-vous fixe tous les dimanches de 8h à 11h. Les auditeurs, ils sont là, ils écoutent, ils ont un petit peu même la larme à l'œil. Ils disent, oh là là, les chansons qui nous rappellent un petit peu nos 20 ans, nos 15 ans, nos 30 ans. Donc on est là pour ça. On rappelle qu'il y a un téléphone, c'est le 01 40 24 29 29. Vous pouvez nous appeler. On est très content de faire des dédicaces. Et puis on salue Enrico qui est là et il est tout le temps à nous dire, attention, parlez pas trop fort parce que quand même, sinon ça va exploser les vues mètres et tout. Oui, mais nous, on ne peut pas parler comme des Français, non? Possiamo fare questa là, io parlo così tranquillamente, cioè, i francesini non si arrabbiano mai, sono sempre tranquille.
Parla normalmente.
Quand tu vas dans le métro, les Italiens, tu les entends tout de suite. À 3 km, tu dis, oh tiens, il y a des Italiens par là.
Michel, voilà. Parle plus fort, s'il te plaît.
Vilain. Alors aujourd'hui dans Cappuccino, le cinéma et les infos politiques seront à l'honneur avec un entretien réalisé par Alain Mengual sur la grande actrice Milena Vukotic qui a notamment tourné dans les Fantozzi. Et à 10h15, nous aurons, comme nous le faisons tous les 6 mois, notre ami et journaliste Alberto Toscano qui nous fera le point sur la situation politique et économique de l'Italie. Mais pour commencer, on va rendre hommage à nos amis espagnols de Valence, terriblement touchés par les inondations de mardi, et on écoute exceptionnellement une chanson en espagnol de Luis Casal, Piensa en mí.
Piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores también, piensa en mí cuando quieras. Quiero para nada me sirve sin ti, cuando llores también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Para nada me sirve sin ti.
Alain, alors tu disais que cette chanson, c'est une chanson de Mina.
Oui, oui, c'est une chanson qu'a chantée Mina en italien à l'origine. Voilà, et qui a utilisé Almodovar dans son film Talons aiguilles.
Alors, une nouvelle sympathique, tiens, pour les amoureux du calcio italien, la chaîne de télé L'Équipe 21 diffuse jusqu'à la fin de la saison des matchs en direct et en clair du championnat italien, de la Serie A. Donc, il faut regarder le programme. Et en fin de semaine, vous avez là, notamment, on a vu Rome-Torino, il y a eu également Monza-Milan. Donc, voilà. Donc, c'est très sympa parce que, bon, voilà, on n'a pas de... souvent, il faut payer pour pouvoir voir les matchs italiens. Et là, donc, c'est gratuit. Il y a quelques matchs italiens toutes les semaines. Tant mieux.
Roma-Torino, Roma qui gagne.
Eh, si. Voilà. Alors, la prochaine chanson, c'est un hommage à Il Volo, puisque vous savez que cette semaine, il a chanté, il y a eu un beau concert pour ses 15 ans d'ancienneté, déjà, hein, pour Il Volo, à la salle Pleyel. Et puis, bien sûr, notre amie Francesca Cantalina était sur place. Et ils ont dit que c'était un concert tout à fait extraordinaire. C'était même retransmis sur une radio italienne, Radio Italia. Donc, et là, on l'écoute avec une chanson qu'ils ont chantée il y a quelques années, dans le sang. Ça s'appelle Capolavoro.
Io che sto seduto dentro un cinema a sognare un po' d'America e un po' di casa tua. E mi chiedo sempre quanto durerà questo amore infinito che infinito non è. Io che mi sentivo perso, una vela in mare aperto, e all'improvviso tu cadi dal cielo. Con te è un capolavoro.
Guarda come sta piovendo, ma è stupendo averti qua. Maledetto tempo che ti dà e poi ti porta via. Io che mi sentivo perso come un fiore nel deserto, e all'improvviso tu cadi dal cielo come un capolavoro. Prima di te non c'era niente di buono. È come se tu fossi l'unica luce a dare un senso e questa vita con te è un c'era niente di buono. È come se tu fossi l'unica luce a dare un senso e questa vita con te sì, la mia vita con te è un capolavoro.
Bon réveil à tous, vous êtes à l'écoute de Cappuccino. Alors là, on vous propose un interview de Alain Amengual, de Milena Vukotic, qui, alors c'est vrai que c'est un nom qu'on connaît pas forcément, alors qu'en fait c'est une actrice qui a une carrière extraordinaire, et pas seulement que dans le cinéma. Alain, comment s'est passée donc cette entrevue avec Milena?
Ça s'est bien passé, puisque donc... Alors cette Milena Vukotic a commencé comme ballerine à Paris d'ailleurs, sa carrière à Paris comme ballerine, et c'est grâce à Huguette Atem qui l'a connue à l'époque qu'on a pu avoir cette interview, sinon c'était difficile de l'avoir parce qu'elle venait pour quelques jours interpréter à l'Istituto Italiano di Cultura une pièce qui s'appelle Milena Overo, Émilie du Châtelet, sur cette Émilie du Châtelet qui a connu Voltaire et qui était une femme savante qui a traduit Newton du latin en français. Et donc Milena a fait donc cette carrière de danseuse, puis de théâtre, de cinéma, et puis elle a jusqu'à avoir au mois de mai là le David de Donatello à la carrière. Mais elle a travaillé aussi bien avec Visconti, Fellini,
Blumel, enfin c'est incroyable.
Trois films de
Blumel.
Vous
allez voir dans l'interview, c'est hallucinant.
Et elle a fait aussi une carrière française, notamment dans une série qui s'appelait Une famille formidable avec Annie Dupéré, etc.
Et les Fantozzi.
Et les Fantozzi aussi. Voilà. Voilà, elle était Pina, la deuxième femme de Paolo Villaggio dans les Fantozzi. Alors, j'ai pu l'interviewer dans son hôtel avec, il y a quelques bruits de fond qu'on a peut-être évité à la dernière.
Peut-être monter un peu le son si des fois dernière. C'est un peu juste pour vous. Et là, on l'écoute voilà. Tout de suite. Donc, Milena Vukotic, l'interview de Alain Mengual.
Milena Vukotic,
bonjour, merci de votre hospitalité. Alors, je suis très contente d'être à Paris parce que c'est un retour après plusieurs années. Parce que j'ai fait mes études à Paris, j'ai conservatoire, j'ai eu un premier prix. Et là, je suis pour jouer en italien un monologue sur Émilie du Châtelet, écrit par Francesco Casaretti et avec la mise en scène d'un auteur de cinéma, Maurizio Nicchetti. C'est un spectacle assez particulier que je fais pour l'Institut de culture italien à Paris, naturellement. Émilie du Châtelet était un personnage vraiment très particulier parce que c'était au XVIIe siècle, c'était une femme qui avait eu la chance de pouvoir faire des études, car à l'époque, les femmes ne pouvaient pas se permettre d'étudier parce que elles étaient condamnées, disons, ou aller dans un couvent, ou bien si elles avaient de la chance, se marier avec un noble, ou bien elles étaient condamnées à la prostitution. Donc elle était la fille du capo cérémoniale, de cérémonie de Louis XIV, qui était un noble naturellement. Elle était marquise. Elle a pu arriver à la bibliothèque du palais et à ce point, elle a pu dare sfogo, on dirait en italien, à étudier et à faire des études de haute mathématique et de sciences. C'est la première femme qui a traduit Newton dans une langue moderne, c'est-à-dire du latin. Et elle était évidemment une femme très avancée, disons une féministe, ante litteram. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur elle. Elle était une grande amie, donc aussi elle a eu une grande amitié amoureuse avec Voltaire, ce qui a été très important dans sa vie. Et pour la vie de Voltaire aussi, parce qu'il a été fidèle à cette amitié amoureuse jusqu'à la fin de ses jours. Moi, je suis née à Rome. Ma langue maternelle, c'est l'italien. Mais j'ai eu la chance, la grande, grande chance de pouvoir étudier à Paris. J'ai eu un premier prix de danse au conservatoire, ce qui m'a permis d'être aussi un an à l'Opéra de Paris. Et ensuite, comme je devais absolument travailler, j'ai pu entrer dans une compagnie de danse très importante. La première, c'était Roland Petit, mais ça a duré 6 mois seulement, tandis que la compagnie du Marquis de Cuevas, j'ai été là 3 ans et demi. En même temps, j'avais pris des cours de théâtre avec cette grande, grande artiste qui a été Tania Balashova. Ce qui a été pour moi vraiment vital, je dirais. Ça a été pour moi un grand, grand maître et j'ai continué en allant à Rome de continuer en italien, disons la méthode, si on peut parler de méthode, de Tania Balashova qui était très, très importante pour moi. Je suis venue en Italie parce que je voulais absolument connaître Fellini. Fellini a été pour moi aussi, disons, une nouvelle perspective. Après avoir vu la Strada de Fellini, je l'ai vu en France, j'ai décidé que je voulais absolument essayer de m'approcher au cinéma, surtout naturellement, au grand, grand cinéma, disons, appelons l'art de Fellini. Finalement, j'ai pu approcher Fellini et j'ai commencé tout de suite à faire part de Giulietta degli Spiriti, avec Giulietta Masina, naturellement. Il y avait Valentina Cortese, il y avait beaucoup, il y avait beaucoup d'actrices très fameuse, et ça a été la première chose que j'ai fait avec Fellini. Ensuite, j'ai participé aussi à un épisode d'un film où Fellini faisait un épisode, et puis il y avait, qui s'appelait Tre passi nel delirio, je crois.
Nel delirio, si.
C'est ça. Et avec un épisode mal de Fellini, et encore. Ensuite, naturellement, le fait d'avoir travaillé avec Fellini m'a ouvert les portes à beaucoup d'autres expériences dans le cinéma que j'aime beaucoup. J'ai travaillé avec Buñuel, j'ai fait 3 films avec Luis Buñuel, ce qui m'a fait rentrer à Paris, le charme discret de la bourgeoisie, le fantôme de la liberté et cet obscur objet du désir. Travailler donc avec Scola, avec Monicelli, avec Bolognini, avec Tarkovsky, qui n'est pas italien et qui était russe, avec Jima, oui. Réalisateur, oui. Qui était Nagisa Oshima, japonais. Et puis, j'ai fait beaucoup, beaucoup de cinéma, avec Risi, avec Bolognini, Monicelli. Et puis, j'ai fait beaucoup de télévision en France aussi. J'ai fait La Famille Formidable pendant plusieurs années avec des magnifiques protagonistes. C'était Annie Dupéré et Bernard Lecoq. Et puis, il y avait aussi Béatrice Agenève. Donc, je me rappelle pas les noms de tout le monde, mais c'était des magnifiques compagnons de voyage avec lesquels j'ai travaillé, avec la mise en scène de Joël Santoni. Ça a duré plusieurs années parce que c'était une série pour la télévision qui s'appelait La Famille Formidable, et voilà. Et toutes les fois que je reviens à Paris, pour moi, c'est une grande fête.
Il y a également une régista femme, Lina Wertmüller.
Il y a Lina Wertmüller avec laquelle j'ai mis soit du cinéma qu'une série à la télévision qui était très importante, je crois que c'était en 67, et qui était Giamburrasca, qui est un classique, disons, des livres pour enfants italiens, mais qui peut très bien aller pour les adultes. Et la protagoniste, qui serait un garçon de 10 ans, c'était Rita Pavone, qui est une merveilleuse chanteuse et qui, dans laquelle on chantait tous, il faut dire, avec la musique de Nino Rota. C'est une chose, et les costumes de Piero Tosi. C'était une série pour la télévision, mais vraiment à l'extrême, parce qu'il y avait tous ces grands personnages et la musique de Nino Rota et Rita Pavone, qui était une grande vedette. Moi, j'étais une des sœurs, une des trois sœurs. Et puis, il y avait beaucoup d'artistes qui faisaient tous des personnages. Ça se passe au début du siècle, 1900. C'était vraiment magnifique.
Il y avait peut-être aussi Giancarlo Giannini, parce que dans l'Ida...
Avec Giancarlo...
Rita Pavone a fait la série de la Tanzara.
Oui, oui.
Plus léger.
Oui, j'ai fait aussi deux films après, où il y avait Giancarlo Giannini. Et puis, j'ai fait avec Zeffirelli au théâtre Black Comedy. Là aussi, il y avait Giancarlo Giannini, il y avait Anna Maria Guarnieri. Avec Zeffirelli, j'ai aussi participé à la Bisbetica Domanda qu'il a fait avec Elizabeth Taylor et Burton. Ce qui me porte aujourd'hui à Paris pour faire ce personnage que j'aime beaucoup, Émilie du Châtelet, qui a été mis en scène par Maurizio Nicchetti, qui avait fait beaucoup de cinéma, avec lequel j'ai aussi tourné un film. Voilà, ça c'est intéressant. Le film de Nicchetti, qui s'appelait Stefano Quante Storie, c'était beaucoup d'histoires sur ce Stefano, qui à la fin est le personnage de Nicchetti même. Et donc là aussi, je faisais sa mère, mais il y avait Nicchetti à tous les âges. Et un Nicchetti à 17 ans, c'était James Thierry. Et moi, je faisais sa maman. J'ai eu la chance de pouvoir jouer avec lui, sa maman. C'était comme ça. Il était très jeune à l'époque. Je crois qu'il avait à peine sorti du conservatoire. Voilà.
Je voudrais simplement évoquer quand même la série avec Fantozzi, avec Paolo Villaggio.
Ah, voilà.
C'est ce personnage de Pina, qui est une femme un peu soumise aux fantaisies de son mari.
Alors, en 1980, j'ai commencé toute une série de films, pas pour la télévision, de films, avec Paolo Villaggio, qui a été un très, très important personnage, je dirais même du théâtre, enfin en général, parce qu'il a inventé un masque qui s'appelle Fantozzi. Moi, j'étais pendant plusieurs années, pendant plusieurs films. Je crois que j'en ai fait, on a fait une dizaine de films, toujours avec ce même personnage et avec toutes les choses qui lui arrivent. Ce sont toujours des choses grotesques. Ce sont des masques grotesques. Et moi, j'étais sa femme, à laquelle il arrive toujours des choses très pathétique, qui s'appelle Pina, donc c'est un personnage fixe, et le personnage de Fantozzi, et je crois qu'il restera dans l'histoire du cinéma, parce qu'il a vraiment inventé le personnage du petit employé, disons, auquel il arrive tous les malheurs possibles, et qui s'en sort toujours d'une façon grotesque. C'est surréel, c'est certainement pas quelque chose de naturel. Les gens se retrouvent dans ce personnage naturellement porté toujours à l'excès, grotesque. Je retrouve très souvent parce que on repasse les films de Fantozzi.
Oui, ils sont devenus des classiques d'humour. C'est aussi une légère critique de la société, du post-office,
c'est-à-dire
des fonctionnaires. Mais pensez-vous qu'aujourd'hui, ce rôle de femme soumise qui subit tout ça, pensez-vous qu'aujourd'hui on pourrait l'accepter, on pourrait proposer des films avec ce thème-là, après Me Too, etc.
Moi, je pense que au fond, c'est la manière de le présenter qui est changée. Mais au fond, c'est resté. Nous sommes tous des personnages excessifs. Mais à la base, les hommes seront toujours les hommes et avec des expressions différentes. Mais à la base, je crois que ça n'a pas beaucoup changé.
Alors, et parmi les réalisateurs plus récents, vous avez tourné notamment avec Ferdinand Ospetek. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Et des autres jeunes, si on peut dire, réalisateurs?
Oui, je viens de finir le film de Ferdinand Ospetek. Le film doit encore sortir le 19 décembre, qui s'appelle Diamanti. Et c'est un film avec 18 femmes. Et ça, c'est intéressant parce que 18 femmes, ce sont toutes des protagonistes. C'est un film qui parle justement de tous les problèmes et tout ce qui se passe dans le monde féminin dans une maison de couture et surtout de cinéma et de théâtre. Tout le monde du théâtre, du cinéma se retrouve dans ces personnages féminins qui, chacun avec ses problèmes, décrivent d'une façon différente la quotidiennité de ce monde qui, au fond, on n'en sait pas beaucoup.
Voilà justement un exemple où ce sont les femmes qui ont les rôles principaux dans ce film. Ce n'est pas dans tous les films, mais y a-t-il d'autres registres plus jeunes de cette génération avec lesquels vous avez Tourbaine également, vous avez des projets de films.
Oui.
On vous a vu aussi récemment dans le Dante de Pupi Avati.
Et j'ai participé aussi au film de Pupi Avati, Dante. Et là aussi, j'étais très contente parce que je n'avais jamais travaillé avec Pupi Avati. Je l'admire beaucoup. Et voilà, c'était une participation assez modeste, mais importante pour moi parce que je pense quoi qu'on fait, c'était très important de pouvoir participer et s'approcher au grand maître.
Et c'est pourquoi aussi vous avez été lors des derniers réunions de David Di Donatello,
oui.
Vous avez obtenu le prix à la carrière.
Oui, c'était très important pour moi parce que je suis encore en train de me demander comment j'ai fait parce que je faisais du théâtre au mois de mai. Je faisais Così e se vi pare de Pirandello et je pensais de ne pas pouvoir être présente parce que ça tombait un jour où on jouait. Mais comment jouer à Rome? On a sauté le spectacle, on en a fait deux le lendemain et comme ça j'ai pu recevoir ce magnifique, comment si dice questo, riconoscimento, très magnifique. Enfin, j'étais encore très heureuse.
Mais c'était mérité vu la carrière au cinéma, au théâtre, en tant que comédienne. Vous avez oublié la ballerine et la comédienne a fait une magnifique carrière.
Oui, disons que j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance de pouvoir faire plus ou moins les deux choses. Jusqu'à la danse, j'ai dû arrêter quand j'ai commencé à faire du cinéma. Mais la danse m'a toujours accompagnée parce que c'est un art qui est non seulement physique et qui m'a beaucoup aidé dans d'autres aspects.
L'exemple est là devant moi. Je vous remercie beaucoup, Elena Vukotic. Puis on a pu vous admirer donc dans cette Émilie du Châtelet à l'Istituto Italiano di Cultura. Merci encore, Milena.
Merci à vous et arrivederci.
Dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca di porterei col fazzoletto di cotone e profumo, col fazzoletto ti nasconderei dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti nasconderei e con la mano che non veda nessuno e con la mano ti accarezzerei. Salirà il sole del mezzogiorno, passerà alto sopra di noi, fino alla tasca del pomeriggio. Ti porto ancora se ancora mi vuoi. Salirà il sole del mezzogiorno e passerà alto molto sopra di noi, fino alla tasca del pomeriggio. Dall'altra tasca ti porto se vuoi. Dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti porterei col fazzoletto di seta e profumo, col fazzoletto ti coprirei. Dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti nasconderei e con la mano che non veda nessuno e con la mano ti saluterei e con la mano ma che non veda nessuno, con questa mano ti saluterei.
Merci Alain Mengual pour cet entretien très sympathique. On a découvert cette actrice qui a une forme extraordinaire. Elle a plus de 80
oui,
et des poussières, voilà, oui. Mais elle a une forme extraordinaire. Merci. Et quand tu auras des possibilités comme ça de faire des entretiens avec des acteurs ou actrices qui viennent sur Paris, on le fera.
Et oui. Elle s'exprime dans un français parfait, hein, vous avez oui. remarqué.
Alors, une annonce d'association importante.
Oui, domenica prossima, 10 novembre, l'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci festeggia la fine della Prima Guerra Mondiale con il seguente programma. Ore 12.30, messa nella chiesa del 31 Avenue Marceau, metro Alma Marceau. Ore 13.30, pranzo al ristorante Il Vesuvio, in Rue Quentin-Bouchard, metro Georges V. Alle 18 ritrovo l'Arco di Trionfo per la posa delle corone in onore dei caduti, morti per la nostra libertà, in presenza delle più alte autorità civili e militari delle due nazioni. Numero di telefono per partecipare 06 61 24 34 58 Renato e 06 74 54 89 19 Walter. Ecco fatto, grazie.
Grazie a te, Paola e Chiara nous chantent une nouveauté qui s'appelle Anni Luce.
Now
Vous êtes bien à l'écoute de Cappuccino sur le 93.1. Tout va bene bene, le 01 40 24 29 29, c'est le numéro de téléphone. Et puis également, on en a un autre qui, t'as vu, on en a deux. Hein, 06 95 66 31 59. Quelques annonces de cinéma et d'exposition et de
théâtre.
Et de livres.
Et de livres.
On va y arriver.
De livres sur le cinéma. C'est vrai. Alors, on peut toujours voir l'Arte Povera, la collection Pinault, si on aime se divertir, parce que c'est de l'art, mais c'est peut-être du canular, mais bon.
On en avait parlé la semaine dernière, voilà. Des matelas un peu bizarres.
Voilà, donc c'est la collection Pinault, l'ancienne bourse du commerce. Non, on peut voir là des vraies œuvres d'art, qui est la Galerie Borghese, qui est exposée au musée Jacquemart-André. Ce sont des tableaux. La collection Torlonia au Louvre, là, ce sont des sculptures antiques, grecques et romaines. Et puis, alors, une nouvelle exposition qui a commencé cette semaine, qui s'appelle « Naissance et renaissance du dessin italien ». Et ça, c'est à la Fondation Custodia. C'est 121 rue de Lille, près de l'Assemblée nationale. Et là, il y a des dessins de Léonard, de Michel-Ange, de Pontormo. Donc, vraiment, très belle exposition, très bien présentée.
Artérique, là.
Artérica, oui, là on est dans le contraire. C'est autrefois l'arte était rica et bella. Et pour parler de cinéma et de Vittorio De Sica, on célèbre les 50 ans de sa disparition, donc en 1974. Et donc Jean Gilly lui consacre un ouvrage qui s'appelle donc Vittorio De Sica, Les chemins du réalisme, puisqu'il est passé du cinéma des Telefoni Bianchi, comme acteur, une période de la guerre où l'Italie essayait de faire rivaliser Hollywood, et au néoréalisme, évidemment, avec le voleur de bicyclette, etc. Et tous ces grands films, notamment avec Sophia Loren.
Juste un truc, il n'y a pas le ciné-club quelque part par là?
Alors, il y aura un ciné-club le 15 novembre.
D'accord, on a encore un peu de temps.
On imagine, vous pouvez nous donner vos réactions, de passer La Grande Bellezza de Paolo Sorrentino. Voilà, et donc il y aura également la sortie de ce livre de Jean Gilly le 6, mais le 19, à la mairie du 13e, une présentation d'un ouvrage de Gremese qui sera tout sur Vittorio De Sica, comme on a eu il y a en 22 pour le centenaire de la naissance de Pasolini, le tout sur Pier Paolo Pasolini.
D'accord, le voleur de bicyclette. Hein, on connaît ça.
On connaît les films de Vittorio De Sica.
Merci. Alors là, on va écouter aussi encore une nouveauté. C'est Giorgia qui nous chante Niente di male.
Fogli di carta nella polvere ritrovo. Non ho mai finto di amare troppo, neanche poco. Non ho mai vinto neanche una volta in questo gioco contro di me. E se domani io sarò altrove perché la vita mi ha resa forte come un gigante e con fatica tu dove sei in questa mia salita? Vorrei farlo sopra un pianoforte. Davanti a questa gente, sai, trovo risposte. È solo un modo per cercare Dio, per far capire che dentro il riflesso tuo ci sono anch'io. E in fondo non c'è niente di male. Se ogni giorno ci sembra uguale, dove finisco io inizi te, ma finiamo sempre per. Sono sola di notte, la luna abbraccia il sole che sorge e perdo tutto io, non ho mai mai mai, giuro mai 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 dormito pensando che vorrei farlo solo.
forte. Davanti a questa gente, sai, trovo risposte. È solo un modo per cercare Dio, per far capire che dentro il riflesso tuo ci sono anch'io. E in fondo non c'è niente di male. Se ogni giorno ci sembra uguale, dove finisco io inizi te, ma finiamo sempre per litigare. Quanto basta, perché il cielo in una stanza ci sembrava più grande di un monolocale. È strano, ma per te ho imparato ad accettare anche l'effetto collaterale. Grande crimine, cercavo uno specchio per somigliare alla tua immagine, cercavo il tuo sguardo così da colmare il silenzio, ma in fondo non c'è niente di male, se ogni giorno ci sembra uguale, dove finisco io inizi te, ma finiamo sempre per litigare. Quanto basta, perché il cielo è effetto collatérale.
Voilà, vous êtes à l'écoute de Capucine et on est content parce que Alberto Toscano est avec nous et c'est vrai que tous les six mois à peu près, je me dis tiens, on va l'inviter parce qu'il va nous faire un petit peu un bilan de santé de l'Italie, de la France, du monde. Et là, le pauvre, le pouls est très très bas hein, en ce moment.
Beh, ciao, grazie del tuo invito, grazie del vostro invito. Et c'est un piacere essere qui et je passe au français. Voilà.
Alors, avant de commencer sur les choses un petit peu plus compliquées, eh ben, on voulait savoir. Comment s'est passé cet été en Italie pour toi? Comment?
Et cet été, du point de vue météorologique, ça a été très bien.
Il faisait chaud, hein?
Du point de vue politique, quand même, on a eu le double phénomène d'un gouvernement italien plusieurs fois en difficulté, mais d'une opposition incapable de profiter de toutes ces difficultés.
Alors, là, moi, je parlais pour tes vacances, déjà. C'était un peu plus léger.
Ah,
et lui, tout de suite, Albert,
il est
tout de suite parti. Alors, on rappelle qu'il est journaliste, qu'il est écrivain aussi, Alberto Toscano. Et tu es... Alors, voilà, c'était juste de quelle région tu es de l'Italie?
Piémontais.
C'est Piémontais. Bah, c'est pour ça que, évidemment, notre ami Renatine est tout content. Si tu es de Torino, c'est encore mieux.
Non, c'est de Novara.
Ah, non, voilà. Bon, d'accord, mais t'es pas pour la Juve.
J'adore Stendhal parce qu'il a écrit les rouges et les noirs.
Voilà. Donc, non, c'était aussi pour savoir comment bon, ça avait été pour toi pour les vacances.
C'était normal été de
comment
vacances.
Comment t'as trouvé l'Italie
dans les Pouilles, comme d'habitude.
Tu vas dans les Pouilles
Oui.
Où ça?
Je vais à Porto Cesareo.
D'accord.
Et donc je me trouve très bien dans les Pouilles. Voilà. pour les autres choses, effectivement, ouais. Le tableau de l'Italie est un tableau un peu particulier sur le terrain de la politique et de l'économie, dans le sens que, comme je disais tout à l'heure, il y a cette polémique continue, gouvernement-opposition, mais il y a un contexte où les limites de l'opposition italienne, qui sont des limites en termes de cohésion, en termes de polémique continue à l'intérieur de l'opposition, qui empêche l'opposition de se rassembler, comme on a bien vu dimanche dernier, suite aux élections en Ligurie, quand le parti de gouvernement de droite de Giorgia Meloni ont gagné les élections, et ils ont gagné les élections suite aux divisions de l'opposition. Donc, dans le contexte de la politique italienne, il y a aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, en répondant au moment pas opportun à ta question qui était personnelle, et moi j'ai répondu politiquement, et il y a ce double phénomène d'un gouvernement qui a des difficultés et parfois des grosses difficultés, comme la démission du ministre de la Culture a mis en évidence, et de l'autre côté d'une opposition qui n'arrive pas à profiter des difficultés de la majorité de gouvernement. Le gouvernement de Giorgia Meloni est au pouvoir depuis exactement 2 ans. Pendant ces deux ans, il a fait du sujet de l'immigration un sujet fondamental pour vérifier sa capacité de régler les problèmes du pays. L'immigration a baissé de façon importante. Je parle de l'immigration à travers la Méditerranée. Je parle de ce que le gouvernement appelle l'immigration clandestine, a baissé de façon importante entre 2023 et 2024, environ les 60%. Mais le choix de créer en Albanie des centres de rétention pour une partie des nouveaux arrivés en Italie a créé une polémique furieuse entre gouvernement et opposition et aussi entre gouvernement et magistrature qui considère ce projet illégal.
Alors, justement, là, parce que, en fait, ce qui est bien avec Alberto, c'est qu'en fait, tu vois, t'as des questions qui sont prévues, mais lui, en fait, il répond à tout à chaque fois, donc c'est avant qu'on pose la question.
J'ai habitude de poser des questions.
On va en revenir à ça, parce que, effectivement, c'est très important, parce que Giorgia Meloni avait fait un petit peu de l'immigration son cheval de bataille. Moi, ce que j'aurais voulu, juste avant qu'on aille dans l'immigration, c'est une question importante aussi, parce que ça concernait un peu la France. Alors, on sait que la France a des très, très gros problème de budget, hein, comment on va réussir à boucler le budget 2025, ouais. C'est terrible. Mais j'aurais voulu savoir, avant toute chose, l'Italie, comment elle est pour ce budget 2025? Est-ce qu'il y a aussi des très grosses difficultés? Est-ce qu'il va y avoir des coupes?
L'Italie va avoir des gros problèmes, a des gros problèmes en termes de déficit et de dettes publiques. Ce gouvernement considère qu'un aspect de l'héritage qu'il a reçu, pas tellement du gouvernement immédiatement précédent, qui est celui de Mario Draghi, qui a été un excellent gouvernement, mais du gouvernement encore précédent, qui est celui de Giuseppe Conte, il a reçu un héritage difficile à porter en termes de finances publiques, parce qu'il y a eu cette disposition de financement du secteur du bâtiment, de construction, de l'essence, de rénover les immeubles et les appartements, pratiquement aux frais de l'État. Ça a été décidé après la période du Covid.
La legge
110%. Je crois, 110%. Sì. Ça a été décidé après la période de Covid, mais ça a tout d'abord largement profité aux entreprises du bâtiment et a profité évidemment aux propriétaires des immeubles, mais ça a été un poids gigantesque pour les finances publiques et donc pour les contribuables.
Et ça va continuer, je crois, hein, pour encore ça, moins 2-3 ans.
C'est en train d'être atténué, mais forcément ça doit arriver à son terme. Et cette mesure qui a aidé certains, mais qui a mis en difficulté les caisses publiques et donc qui a mis en difficulté l'autre partie de la population, est largement contestée, mais pas que par ce gouvernement, par plusieurs analystes financiers. Mario Draghi, quand il est arrivé au pouvoir, je rappelle, il restait pratiquement un an au pouvoir, hein, entre 2021 et 2022, et il a dû faire avec. Cette loi était déjà décidée, il n'a pas pu poursuivre sur ce chemin. Alors le poids sur les finances publiques est énorme. La preuve est que deux pays ont eu un déficit public particulièrement, disons-le, scandaleux entre dans l'année fiscale 2023, et ils sont la France et l'Italie.
Alors, si tu veux, on reparlera de la France un petit peu plus tard, parce que j'aimerais quand même avoir ton avis, parce que c'est vrai que, bon voilà, ça correspond, ce n'est pas l'Italie, hein, mais c'est important, parce que, comme tu dis, c'est scandaleux, tu viens de dire le terme, et j'aimerais bien savoir ton avis sur ce déficit français monstrueux, avant élection, après élection, on passe de 3,5%, on se retrouve à 6%, donc, mais ça on en reparlera un petit peu après, on finit avec le budget italien. Si
voilà, le budget italien doit être forcément un budget de prudence, de rigueur, sans doute, peut-être aussi d'austérité. La polémique entre gouvernement et opposition regarde aujourd'hui deux aspects spécifiques de ce budget. Un est le cas exemplaire des centres de rétention pour migrants en Albanie, financés par l'Italie, et dont le coût d'environ 800 millions d'euros pèse évidemment sur les caisses publiques. Au-delà de ce chiffre, la polémique regarde le fait que...
Pour ça ne marche pas. Mais on en reviendra, comme on le disait tout à l'heure,
l'autre,
par rapport à ça.
Et l'autre aspect de la polémique entre gouvernement et opposition, opposition de gauche, je rappelle, dirigée par Eli Schlein, leader du Partito Democratico, regarde les dépenses dans le secteur de la santé. Le gouvernement reproche l'opposition reproche au gouvernement de ne faire pas assez pour améliorer le système sanitaire national. Encore, il faut rajouter le fait que le système sanitaire en Italie dépend aussi et en grande partie des régions, et donc chaque région doit gérer ce problème extrêmement délicat de la santé, et il y a malheureusement des régions qui ont des résultats meilleurs que d'autres.
Donc on s'aperçoit que le budget italien va aussi être un budget en 2025 très compliqué.
Et dans tout ça, c'est greffe, excuse-moi, la question très délicate des dépenses dans le secteur de la défense, qui en Italie ont baissé année après année, mais qui maintenant, dans le contexte international actuel, pose un problème tout à fait particulier, et donc là, il y a une forte polémique entre, disons, une composante dite pacifiste du Parlement, qui est une partie de l'opposition, pas toute, et de l'autre côté, le gouvernement. Mais quoi, indépendamment de la couleur du gouvernement, l'Italie doit bien se poser à l'avenir les problèmes de sa défense, surtout dans l'hypothèse où...
Un peu comme l'Allemagne aussi.
Surtout dans l'hypothèse où Trump puisse gagner les élections américaines, tous les pays européens doivent se poser le problème d'assurer directement leur propre défense et donc faire face à des dépenses propres défense et donc faire face à des dépenses croissantes dans le secteur militaire.
Alors, à faire une pause musicale avec Fiorella Mannoia, que tu connais bien, et que, oui, tu voulais quelque
chose. Ce sera dédié à Maria Darpa, qui nous écoute depuis très longtemps.
Ah, ben,
Sicilienne de Tunisie.
Un grande salut, Maria.
Grande salut. Si. Fiorella Mannoia, quello che le donne non dicano. J'espère que lui parle, son mari.
Certe lettere d'amore, parole che restano con noi. E non andiamo via, ma nascondiamo del dolore che scivola, lo sentiremo poi. abbiamo troppa fantasia, e se diciamo una bugia è una mancata verità che prima o poi succederà. Cambia il vento ma noi no, e se ci trasformiamo un po' è per la voglia di piacere a chi c'è già, potrà arrivare a stare con noi. Siamo così, è difficile spiegare certe giornate amare, lascia stare, tanto ci potrai. Delle giornate senza fine, silenzi, che familiarità, e lasciano una scia le frasi da bambine che tornano, ma chi le ascolterà? E dalle macchine per noi i complimenti del Playboy, ma non li sentiamo più se c'è chi non ce li fa più. Cambia il vento ma noi no, e se ci confondiamo un po' è per la voglia di capire chi non riesce più a parlare ancora con noi. Siamo così dolcemente
avec Alberto Toscano. Alors on parle de l'Italie, mais là, juste, on voulait faire une petite parenthèse par rapport, parce que c'est quelque chose quand même qui est très gros, hein. Bon, ouais, c'est passé assez rapidement, un petit peu dans les médias, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est quand même assez grave en France, c'est le dérapage du budget. Avant les vacances, en gros, et avant les élections, c'était autour des, bon, allez, on disait 3-4%, et puis on est arrivé à plus de 6%, sans qu'il y ait de vague, finalement. On ne sait pas, le ministre du budget, il n'avait peut-être pas bien compris comment fonctionnent les chiffres. Comment tu peux expliquer ça? Ça, c'est juste pour nos amis français.
Le déficit de la finance publique française était en 2023 environ 5,5%, et en Italie, il dépassait un peu le 6%. Donc, c'était vraiment des chiffres exagérés, surtout si on tire compte que la règle de Maastricht, décidée à Maastricht, la règle 3. De l'euro, c'est 3%. Donc, la situation est grave, mais c'est pas grave pour une raison philosophique de respecter une règle. C'est grave parce que le déficit, faire du déficit signifie faire du dette. Ça vaut pour une famille, ça vaut pour un État. Et faire une dette signifie, un jour, payer la dette. Et pour payer la dette des États, il y a une solution que tout le monde doit adopter, et c'est d'émettre des bons du trésor, qui prend des noms différents selon les États, mais des bons du trésor qui sont achetés par des personnes qui ont de l'argent à placer et qui reçoivent évidemment un intérêt. Et cet intérêt, plus la dette difficile à gérer, plus la dette est élevée, plus la crédibilité d'un État baisse et plus le taux d'intérêt augmente. Donc, plus cet État doit payer pour refinancer sa propre dette. Mmh. Et une fois qu'on a dit ça, il y a les chiffres. Aujourd'hui, la dette publique italienne, qui est traditionnellement élevée depuis une quarantaine d'années, et même une cinquantaine d'années, la dette publique italienne, aujourd'hui, est environ 2950 milliards d'euros, dont juste un peu moins de 3000 milliards d'euros. La dette publique française, qui était autrefois tout à fait raisonnable, aujourd'hui a dérapé. Elle dépasse les 3000 milliards d'euros, elle dépasse largement, elle dépasse même les 3200 milliards d'euros. Compte tenu que la France a une crédibilité supérieure par rapport à l'Italie vis-à-vis des marchés financiers internationaux, la France paye un pourcentage moins pour refinancer sa dette. Mais quand même, ce poids augmente rapidement depuis quelques mois. Et pour donner un ordre de grandeur, traditionnellement, l'Italie paye environ 85 milliards d'euros par an. Je dis bien 85 milliards d'euros par an. Combien d'écoles, combien d'hôpitaux on peut réaliser, construire avec 85 milliards d'euros pour refinancer sa dette. La France payait jusqu'il y a quelques mois 40 milliards d'euros, avec une dette publique semblable, elle payait moins que la moitié. Mais aujourd'hui, la France dépasse les 50 milliards d'euros et bientôt approchera des 60 milliards d'euros, parce que malgré tout, les marchés financiers internationaux exigent des taux d'intérêt supérieurs, même pour acheter des bons du Trésor français. Et cette année, l'année prochaine, 2025, la France devra émettre des bons du Trésor pour 300 milliards d'euros parce que d'autres bons du Trésor arriveront à échéance. Donc, la situation française est difficile, mais là, il y a un facteur qui est en train de jouer, et c'est le facteur stabilité politique. Et on peut dire tout le mal possible du gouvernement italien, mais quand même, c'est un gouvernement qui a une majorité au Parlement et qui gouverne. Il gouverne peut-être mal, mais il gouverne et il a une majorité au Parlement. En France, il y a un sens de désordre politique. Les élections...
À l'italienne, comme dans les années 70-80.
On peut dire. Les élections anticipées ont été politiquement un désastre. Et je ne juge pas qui a gagné ou qui a perdu. Mais en réalité, personne n'a gagné, personne n'a perdu. Parce qu'il y a une instabilité. Parce qu'il est, le président Macron, dans son discours du 9 juin, quand il a annoncé la dissolution du Parlement, et on s'en souvient, chacun de nous s'en souvient très bien, il a dit, je veux la stabilité. Par la décision de dissoudre, je veux créer de la stabilité. À la faccia de la stabilità, oui, comme on dit en italien. Et on voit pas une trace de stabilité. Et on voit aujourd'hui un gouvernement qui n'a absolument pas de majorité à l'Assemblée nationale, qui est en train de gérer le débat sur le budget dans des conditions où chaque parti est en train de jouer perso. Et chaque courant de ce parti joue perso. Et pourquoi? Parce que, compte tenu de cette situation d'instabilité, tout le monde parie sur le fait que l'année prochaine, il y aura d'autres élections anticipées pour l'Assemblée nationale. Et donc, dans un contexte de campagne électorale permanente, personne n'accepte de faire des sacrifices, de renoncer à quelque chose pour arriver à des compromis. Chacun joue pour soi-même. Et là, ça devient extrêmement difficile en France d'arriver à ce moment fondamental pour tout pays, qui est le vote de la loi sur le budget de la loi des finances. Et je ne vois pas d'autre solution que le 49-3, qui est un authentique bazooka constitutionnel, qui permet à un gouvernement de faire passer un projet de loi sans vote du Parlement. Le Parlement peut, l'Assemblée nationale peut voter la censure, mais la censure probablement ne sera pas approuvée, et donc la loi fondamentale qui est le budget, la loi du budget, comme l'année dernière quand il y avait un autre gouvernement et une autre Assemblée nationale, passera grâce au 49-3. C'est un contexte qui, loin de stabiliser, augmente ultérieurement l'instabilité politique en France.
Pour terminer sur la France, juste là, c'est peut-être une question philosophique. Quand on voit qu'il y a eu tromperie hein, sur les chiffres, mais énorme, hein, est-ce que peut-être le président de la République n'aurait pas dû donner sa démission?
Tromperie sur les chiffres, je dirais pas, j'utiliserais pas le mot tromperie parce que les chiffres. Forcément, on doit dire les chiffres. Peut-être que l'erreur et la faute ont regardé la perspective, justement. Le fait de promettre l'erreur fondamentale de l'année 2024 à la politique française a été la dissolution, je pense.
Parce mais que ça, ça n'empêche pas que on peut
dissoudre,
le budget a explosé. On passe de 3,5% à plus de 6,5% peut-être. Donc là,
oui,
même quelque chose. Sinon, on fait ça avec notre banque, qu'est-ce qui va se passer? Ça
oui,
va pas marcher.
le discours sur la démission du président ne regarde que lui-même. Il n'y a pas une obligation de démissionner, mais il y a une obligation, par contre, de gouverner. L'obligation est de garantir au paquebot France comme au paquebot Italie, qui sont dans la tempête, une ligne de navigation, une route, comment se dit sur une route?
Une strade, non?
Le paquebot,
une chine.
Voilà, précise pour arriver quelque part. Quand un paquebot va de tous les côtés, alors évidemment, il risque d'arriver nulle part.
Alors, on clôt ce petite parenthèse par rapport à la France, on revient à l'Italie. Alors, Giorgia Meloni avait fait de l'immigration clandestine son cheval de bataille. Récemment, l'envoi des migrants en Albanie donc a été un échec puisque l'Europe a refusé ça. Qu'est-ce que tu en penses de un peu ce camouflet finalement de Giorgia Meloni qui avait fait effectivement 800 millions pour pouvoir accueillir les immigrés en Albanie et pour l'instant ça fonctionne pas.
Alors, tout d'abord, si tu permets les chiffres, hein, en 2022, les migrants qui sont arrivés, les débarquements arrivés à travers la Méditerranée en Italie ont été 85 000. En 2023, dont la première année du gouvernement Meloni, ont été 144 000, dont ils ont largement augmenté. Et cette année, évidemment, on parle des chiffres entre... je dois le préciser, entre le 1er janvier et le 30 octobre. Hein? Donc, entre le 1er janvier et le 30 octobre, ils ont été 85 000 en 2022, 144 000 en 2023 et 55 000 cette année. Donc, il y a eu une forte baisse entre le 2023 et le 2024. Je répète, entre le 1er janvier et le 30 octobre. Et pourquoi? D'un côté, il y a eu le fait que l'émigration africaine a choisi d'autres chemins pour arriver en Europe, et en particulier, elle va aujourd'hui largement vers des territoires espagnols, que ce soit l'Espagne continentale et surtout vers les îles Canaries. Et de l'autre côté, il y a eu les accords entre le gouvernement italien et l'Union européenne d'un côté, et de l'autre côté, des pays africains, en particulier la Tunisie, mais aussi la Libye. Donc, ces deux éléments ont joué pour faire baisser les migrations africaines. Aujourd'hui, une grande partie des migrants qui arrivent en Italie à travers la Méditerranée vient du Bangladesh, et du Pakistan et de l'Égypte. la question dont jusque-là on peut dire il y a des résultats. Par contre, la décision la plus symbolique du gouvernement Meloni, qui était cette histoire de créer des centres de rétention en Albanie pour voir les dossiers de chacun qui demandait la possibilité de rester en Italie comme réfugié, ce choix est jusqu'à aujourd'hui un échec total. Et le gouvernement Meloni a dépensé de l'argent public quand ces centres sont totalement vides.
Ils sont vides. Hein.
Et en plus, on paye des policiers et des agents italiens pour vivre en Albanie. Et là où il n'y a pas les migrants.
Personne,
pour les... Donc jusque-là, c'est un échec, et c'est aussi un échec sur le plan politique, parce que ça a ouvert une polémique avec la magistrature, et on n'avait vraiment pas besoin de ça, la magistrature considère que ce choix ne respecte pas les règles européennes, et en particulier une décision de la Cour de justice européenne. Dont la polémique continue et continue à polluer le débat politique italien. Donc, une fois qu'on a dit ça, il y a un problème fondamental qu'aucun État européen est en mesure de résoudre aujourd'hui et que les États européens peuvent résoudre seulement tous ensemble. Ce problème fondamental est très simple et je le dis en deux minutes, si tu me permets. L'Europe dit, nous on accepte les réfugiés, ceux qui sont persécutés dans leur pays d'origine, et on refuse les migrants économiques, et donc ceux qui arrivent ici seulement pour chercher de meilleures conditions de vie, doivent être ramenés dans leur pays d'origine. Or, quand les bateaux des migrants arrivent à Lampedusa, ou ailleurs, ou aux Canaries, les migrants posent une demande d'asile politique ou une demande d'accueil pour avoir des documents réguliers en tant que réfugiés. Mais l'analyse de chaque dossier implique des semaines, voire des mois. Et pendant cette période, ces migrants, où est-ce qu'ils sont? Alors, en Italie, et ailleurs, ils sont dans des centres de rétention. Mais les centres de rétention ne sont pas des prisons. Le migrant peut s'en aller. La normative actuelle, le choix actuel de l'Europe, qui est un choix qui ne tient pas de dire on accepte les migrants politiques, les persécutés, et on doit ramener les migrants économiques dans leur pays d'origine. Ce choix est en réalité une machine pour créer de l'immigration clandestine. Parce qu'une grande partie des migrants qui arrivent, dans l'attente de l'examen de leur dossier, surtout ceux qui savent qu'il y a de hautes probabilités que leur dossier soit refusé, et ils font perdre leurs traces, et ils partent dans la nature, et ils essaient de passer de l'Italie en France, ça pollue complètement toute la situation, et même les relations franco-italiennes, parce qu'ils essaient de passer de façon clandestine, parce qu'ayant été devenus des clandestins, ils passent clandestinement ensuite les frontières. Cette incapacité des Européens de se mettre d'accord pour gérer de façon efficace la question des demandes d'asile et des demandes de permanence pour avoir des documents réguliers en Europe, cette incapacité de gérer ce dossier génère de la clandestinité, génère des polémiques entre pays européens et produit une situation extrêmement injuste et dangereuse. Or, l'idée de centres de rétention en Albanie, d'où on ne peut pas s'échapper, parce que si on est en Albanie, où est-ce qu'on peut aller? ce choix s'est révélé, au moins jusqu'à présent, un échec total. Mais le problème existe vraiment. Et les pays européens, tous les pays européens, y compris ceux qui ne veulent pas regarder la réalité, doivent ou devront un jour se mesurer avec ce problème. Comment est-ce qu'on traite les migrants qui arrivent dans la période entre leur arrivée en Europe et le résultat de l'examen, de leur demande pour rester en Europe?
Alors, on va clôturer un petit peu ce volet de l'immigration. On va faire une pause musicale avec Ornella Vanoni. Et puis après, on reviendra à peut-être quelque chose d'un peu plus sympathique. Et Vanoni qui nous chante « Per un'amica ».
Passeggiamo sulla sabbia che il bambino almeno non gioca. Da dov'è che cominciamo? Dagli amori o dalla noia? Tuo marito sì, lo incontro, gran sorrisi, gran saluti. Ma il discorso è già finito, non ci siamo mai piaciuti. Cambia giri, cambia amori, come un lupo senza tano. Senza i tuoi capelli lunghi e la tua dolce sottana. Come va la nuova storia? Sei tranquilla, meno male. Ci si stanca a coccolare una tigre dentro il cuore. Però in fondo rimpiangiamo gli anni belli, gli anni duri. Nel deserto degli adulti, quattro occhi, quattro muri. Fiori, che peccato che si veda così poco dal di fuori. Non c'è niente, solo il sole che si perde tra le case lentamente. E sentiamoci vicine, qualche cosa abbiamo fatto. Tu quel sole di tuo figlio, io la canzone che ti canto. Forse volano già insieme contro il vento del futuro. Hanno il sangue nelle vene di due che sanno. Scura, costruiscono castelli e due donne che hanno paura.
Vous êtes à l'écoute de Cappuccino sur Allegri FM 93.1 avec Alberto Toscano. Alors, il y a un auditeur, Claude Bernardi, qui demandait « Qu'est-ce que tu pensais de Giuseppe Conte, celui qui est président des Cinque Stelle, rapidement ?»
Aujourd'hui, les Cinque Stelle sont complètement en crise. Il y a une dispute très dure entre Giuseppe Conte, qui a été le président du Conseil deux fois. Hein? La première fois, c'est entre 2018 et 2019 à la tête d'un gouvernement qui était composé par les 5 étoiles et par la Ligue de Matteo Salvini. D'ailleurs, disons la vérité, on peut arriver jusqu'à des compromis, mais un compromis avec le parti plus protestataire qui existe en Italie, qui existait dans l'Italie de l'époque, les 5 étoiles, et le parti le plus de droite de l'extrême droite italienne qui est la Ligue, hein. Ensemble, ils ont gouverné une année. Ils avaient la majorité au Parlement. Ça, on l'a oublié. Hein? Donc, Giuseppe Conte est quelqu'un qui a dirigeait ce gouvernement, et ensuite il a dirigé un gouvernement d'une autre couleur, en réalité contre la Ligue, qui avait choisi de mettre en crise son gouvernement. Giuseppe Conte est un peu un homme pour toutes les saisons à la tête d'un parti qui a représenté une volonté de protestation à tout prix et contre tout. Aujourd'hui, ce parti, les 5 étoiles, est très divisé. Son fondateur, Beppe Grillo, qui n'a jamais été député, mais qui était le père noble, le fondateur de ce parti, acteur comique, très efficace dans son métier, et même dans l'initiative de créer ce parti, est absolument contre Giuseppe Conte, qui est devenu quelque part le bureaucrate qui dirige ce qui reste de ce parti. Et ce parti est quand même fondamental pour la cohésion de l'opposition aujourd'hui. Donc, bien qu'en déclin, bien que divisé, le mouvement 5 étoiles aujourd'hui a un rôle clé à l'intérieur de l'opposition, et donc, si il n'y a pas d'entente entre les 5 étoiles et le Parti démocrate, qui est beaucoup plus fort, dirigé par Lichlein, alors l'opposition est trop divisée pour faire le poids contre la majorité de droite et d'extrême droite. Donc, le problème est là. Le problème est là. Ce parti est en déclin complet. Aux élections en Ligurie, a eu seulement les 4,5% dimanche dernier, dimanche et lundi dernier. Donc, c'est un déclin, mais il est quand même encore déterminant dans le contexte de l'opposition.
Alors, une question. Oui, on a le temps. Bonne nouvelle économique, hein, puisque l'Italie est championne d'Europe des exportations. Comment on peut expliquer ça?
Ben, l'Italie est quand même un pays où l'industrie a une tradition, et la tradition industrielle italienne est la tradition des PME. La force de l'industrie italienne, c'est les PME. C'est pas Fiat. D'ailleurs, aujourd'hui, on voit
Fiat,
la honte, plus, hein. La honte, ouais. d'une société qui a reçu pendant des décennies des aides de l'État, des aides en tout genre de l'État italien, et qui aujourd'hui continue de licencier, de réduire son personnel en Italie dans le contexte de Stellantis, continue de marchander des aides de l'État pour exprimer la promesse de ne pas licencier encore après avoir réduit l'industrie automobile italienne autrefois si importante à l'ombre de ce qu'elle était. Donc la force de l'industrie italienne, c'est les PME dans leur courage, dans leur attitude sérieuse. Et souvent, les PME italiens ont été créés par des ex-ouvriers qui ont trouvé le financement pour créer leur petite entreprise. Et ce réseau de PME italiens, malgré les difficultés, continue à être performant. Et les exportations vont bien. Alors, je ne sais pas s'ils sont en 2024 le premier exportateur d'Europe, je ne suis pas sûr. Ils l'ont été l'année précédente, mais quand même, ils exportent et c'est grâce à eux que l'économie italienne tient encore.
Alors, pour terminer, une question un petit peu plus légère. À Rome, ouais. Peut-être on va faire payer l'entrée de la fontaine de Trèves, il pourrait aller la voir, un peu comme à Notre-Dame aussi à Paris. Qu'est-ce que t'en penses?
Il y a un film où on vendait avec Toto, et vendait la fontaine de Trèves, et il promettait que les revenus, l'intérêt économique et financier de la fontaine de Trèves était de ramasser les pièces de monnaie que les touristes jettent dans l'eau. Et je crois que c'est compliqué. Je ne vois pas comment est-ce qu'on pourrait faire payer les billets. Mais l'idée de faire payer les œuvres d'art d'un côté à une logique, je parle pas de la fontaine de Trèves, mais en général, la possibilité de de voir certaines églises ou œuvres d'art a une logique parce que il faut beaucoup payer pour entretenir ces mêmes œuvres d'art. De l'autre côté, l'art et la culture appartiennent à tout le monde et j'espère que tout le monde pourra en profiter.
Juste une chose, je suis un peu nationaliste peut-être moi, mais est-ce que ça te choque pas quand en Italie on fait payer maintenant l'entrée pour aller voir Venise et que les Italiens doivent payer pour aller voir leur propre ville et souvent des monuments qu'ils ont peut-être entretenus et mis comme ça en bon état. Est-ce que il n'y a pas quelque chose qui est quand même très choquant?
Non, mais c'est choquant, c'est absolument choquant. Venise appartient à tout le monde et on doit pouvoir la voir sans payer. Encore faut-il décider qui paye pour l'entretien de Venise. Ce qui est inconcevable...
Non, mais faire payer des touristes, non, peut-être mais... quand tu vas dans le monde entier, tu vas payer. Mais les Italiens eux-mêmes qui doivent payer pour aller voir leur propre monument.
Si, mais à la limite, les Italiens, une fois qu'on fait payer le touriste, il y a le touriste italien, le touriste, il est compliqué de faire le tri entre le touriste et l'autre.
Il suffit de faire voir le passeport, c'est tout.
Si, mais en même temps, on décide le principe que le touriste paye, le touriste paye indépendamment de son passeport. Mais le problème est sur le principe de faire payer les touristes. Les touristes payent déjà, parce qu'ils payent la taxe de séjour.
Oui, non, mais alors si on part de ce principe-là, t'imagines que alors à Rome on va faire pareil, à Venise on va faire pareil, à Florence on va faire pareil. Et donc les Italiens partout où ils iront, ils devront payer pour voir leur propre ville.
L'habitant de Rome, quand il passe une semaine dans un hôtel à Milan, il paye une taxe de séjour.
Oui, ah, d'accord.
Donc là, l'habitant de Rome paye déjà pour visiter Milan ou Venise. Le problème est quel moyen choisir pour responsabiliser, faire payer les touristes pour la permanence dans une ville. On ne s'étonne plus du fait qu'ils payent une taxe de séjour. À Venise, ils ont choisi d'introduire une autre méthode supplémentaire pour le faire payer. Et c'est l'addition de ces deux méthodes qui crée un problème. Ça suffisait d'augmenter la taxe de séjour, qui est payé par tout le monde, sans que quelqu'un puisse s'étonner, qui acceptait. Et là, on arrive au résultat. Donc, je crois que la bonne méthode est là. Mais encore, faut-il décider qui paye pour d'autres investissements. Parce qu'aujourd'hui, la culture est un investissement immense. Et donc, les frais pour entretenir une ville comme Venise en bon état sont des frais énormes. Alors, qui paye? La région, la commune, l'État, une nouvelle impôt?
Alberto, on en reparlera dans 6 mois.
Vengo sempre volentieri a tuo micro.
Il est 11h passé.
Ciao.
Merci
a tutti.
Merci à toi.
Grazie.
Ci vediamo fra poco. Tu nous diras un petit peu, même au niveau de tes projets et de tes livres, ce que tu...
Merci
à toi.
Ciao,
et nous, on se retrouve dimanche prochain. Merci à Enrico. Ciao, ciao.